101.5.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast ou cette vidéo sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb, mais attention, d'abord générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h, c'est bientôt Noël, et on va parler ce soir de Noël. Voilà, donc bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est beau micro. En vidéo, si vous êtes sur YouTube à nous suivre, n'oubliez pas la chaîne directement de Radio G. Vous pouvez voir que je suis capable de faire plein de choses en même temps, c'est magnifique. Je ne suis pas tout seul ce soir parce que je suis en compagnie de Florence. Salut Florence.
Salut Seb, salut tout le monde.
Ça va bien ?
Ça va, merci.
Super. Je suis en compagnie de Fabien, ça va Fabien ?
Ça va, bonsoir à tous.
Perfect. Et je suis en compagnie de Bruno. Salut Bruno.
Salut.
Pas trop essoufflé ?
Non, ça va, je suis un peu en retard, j'ai traîné dans un magasin de BD, c'est pour ça que je suis un peu à la bourre.
Oh.
Donc j'ai une bonne excuse du coup.
Ouais, ça va, effectivement. Ce soir, on est sur une émission spéciale Noël. On a décidé de vous faire part de nos coups de cœur de Noël, de vous faire découvrir des choses que vous n'auriez pas vues. Voilà, on va faire ça de manière très chill, très tranquille, le but est pas de se prendre la tête, donc voilà. Quoi dire de plus, il y aura des petites pauses musicales pour aller avec ça. Tellement facile à raconter, des petites pauses musicales de Noël. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser des messages dans le chat de Radio G ou dans le chat de YouTube. On essaiera de vous y répondre. Et n'hésitez pas aussi à nous partager vos... Je vais y arriver, hein, décidément, ce soir. Vos coups de cœur ou vos conseils de BD pour Noël. Voilà. Voilà, que vous fêtiez Noël ou pas, on s'en fout, nous. C'est juste que vous faites la fête, on s'offre des trucs. Voilà, on va vous donner des conseils là-dessus. Hein. Voilà. Quoi dire de plus ? Des petites choses à dire de plus, les gens, ou pas ?
Ben non, on est prêts pour cette petite émission, ça va être sympa.
Eh ben, c'est cool. Bruno, bien remis du festival en GBD ?
Ouais. Ça a été. Non, ça s'est bien, plutôt bien passé. Ouais, mais c'est toujours un peu fatigant, mais ça va. J'ai toujours ma voix. Ça a été un bon festival. Ça s'est bien passé. Ouais.
Top. Est-ce que tu as de mémoire le nom des lauréats des prix qui ont été donnés ou pas?
Je sais que c'est Sibylline qui a remporté le prix. Alors, c'est le titre de l'album, si ma mémoire est bonne, qui a remporté le prix Première Bulle. Pour le prix Bibliopole, j'avoue que je suis resté très corporate. Donc, je ne connais que ce qui concerne ma paroisse. Donc, tout ça se trouve sur le site d'Angers BD. Vous aurez les précisions complètes sur la lauréate, en l'occurrence, parce que c'est une autrice qui a remporté le prix Première Bulle cette année.
Ok, perfect. Est-ce qu'on se fait un petit tour de news quand même, Flo ?
Oui, allons-y.
Allez, c'est parti, on t'écoute.
Alors, pour cette deuxième partie du mois de décembre concernant les festivals, eh bien, ça va être assez calme. Pour ceux qui ont prévu d'aller voir leur famille ou leurs amis pour les fêtes de fin d'année un peu plus au nord, à Namur en Belgique, vous pourrez vous rendre à la Foire du Livre et du Vieux Papier de Collection le 27 et 28 décembre prochain. Vous y trouverez généralement, comme chaque année, c'est la 38e édition pour information, des œuvres assez rares et de très anciennes bandes dessinées. Et généralement, il y a des stands avec des objets de collection en vente. Autre festivité, si vous avez la chance de rester en France et de vous rendre du côté d'Aix-en-Provence, sachez que jusqu'au 11 janvier 2026, dans le cadre des rencontres du 9e art, se tiendront des animations et des expositions en lien avec l'univers, bien évidemment, de la bande dessinée, dans plusieurs lieux de la ville. Vous pouvez d'ailleurs observer sur Internet donc la magnifique affiche prévue pour cet événement, réalisée par Anouk Ricard, lauréate du Grand Prix 2025 d'Angoulême, sur le thème de Noël. Pour information, donc pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, donc le festival d'Angoulême, qui devait se tenir du 29 janvier au 1er février, a été annulé par son organisateur, face au boycott massif des auteurs et autrices et face aux problèmes donc qui ont été évoqués depuis le début de la polémique. Seb, je te laisse en dire un peu plus.
Ouais, ben en fait, on va pas forcément en dire beaucoup parce que voilà, on va pas politiser plus le débat qu'il ne l'est. Voilà, pas de festival Angoulême, première fois en je ne sais plus combien d'années, ce qui est quand même assez
74 je crois le premier.
Ouais, c'est ça, hein, ouais. Mais comme on l'avait déjà dit, il y avait plein de moments où on a eu de la grogne qui commençait à monter sur plein de choses qui n'allaient pas. C'est une structure qui est complexe puisque il y a une association, il y a une entreprise, il y a des pouvoirs publics dans le lot et il faut arriver à accorder tout ça. Faut arriver aussi à accorder les auteurs qui maintenant ont de plus en plus de revendications et à raison, hein, selon moi. Et voilà, là, il y a un moment, ça a commencé à monter, puis la cocotte minute a fini par exploser, ce qui fait que cette année, pas de festival, mais les auteurs ont commencé à faire un petit quelque chose assez cool, c'est qu'ils ont décrété qu'ils feraient quand même un off. J'ai vu par exemple Enrico Marini qui disait qu'il serait présent, qu'il ferait des dédicaces à ceux qui arriveront à le trouver pendant le festival, puis qu'il sera sur place. Donc voilà. Donc il y a moyen quand même de faire quelque chose à Angoulême cette année, même si ce ne sera pas un festival à proprement parler, comme on pourrait l'avoir habituellement. Voilà. Voilà, voilà. Quoi dire de plus ? Je sais pas. Si ce n'est que voilà, le festival, il va bouger. Il va certainement se renouveler l'année prochaine. Et puis voilà, il y aura pas. Pas cette, l'année prochaine, pas 2026, mais du coup 2027, il y aura sans doute quelque chose qui sera sur une nouvelle structure, une nouvelle forme, et puis tel le phénix, ça va renaître de ses cendres. Je pense que ce sera vraiment très cool.
Ouais, hâte de voir ce que ça va donner, histoire de relancer la machine et que surtout que ça s'arrête pas, parce que c'est pas du tout l'objectif.
Non.
Parce que c'est quand même énorme ce qu'ils faisaient à Angoulême, donc on espère voir ce que va donner l'édition 2027. Je pense qu'ils vont préparer ça avec beaucoup d'attention, du coup, à mon avis, pour nous faire un truc sympa.
J'espère. On verra. On verra. Ouais, je vois pas quoi dire de plus.
Moi, j'ai déjà mon logement pour 2027. Je vais repousser celui de 2026 à 2027, du coup.
Trop bien. Bien écoute, il y a des chambres en plus ou pas?
Je suis pas sûr.
Est-ce qu'on commence à parler de petites choses de Noël? Qui est-ce qui veut se lancer? Bruno, j'en ai plein, moi j'en ai prévu plusieurs.
Bah, vas-y, commence, parce que tu seras un peu notre fil rouge du coup.
Ouais, sans souci. Je vais faire assez simple déjà, je vais vous reparler de mon chouchou ultime de cette fin d'année, Hélène de Windhorn, de Elbilkis Evely, de Tom King et Mathieu Lopez, publié aux éditions Glénat. Je suis tombé dessus, je suis juste ultra fan du truc. Je vous rappelle l'histoire, c'est la fille d'un auteur de fantasy, de roman de fantasy qui n'a pas de succès. Cet auteur s'est suicidé, a laissé sa fille de 16 ans un petit peu toute seule, et le grand-père engage une gouvernante pour aller chercher sa petite fille et la ramener au manoir familial. Manoir familial qui est énorme, le grand-père qui n'est pas là au départ, on ne sait pas qui c'est, et cette jeune fille qui a tendance à se pencher un petit peu trop sur le goulot de la bouteille et qui a des petits soucis à gérer avec ça. Et quand le grand-père revient, eh ben on va commencer à se rendre compte que peut-être que les romans de fantasy créés par son père ne sont pas que de la fantasy. Et du coup, elle va découvrir un univers complètement dingue. C'est juste une histoire qui est un grand cri d'amour à l'histoire des romans pulp, Robert Howard, par exemple, en tête. C'est juste super bien écrit. En parallèle, on a aussi un journaliste qui se penche sur la vie qu'a pu avoir la gouvernante pour comprendre un petit peu cette jeune fille, comprendre un petit peu son père, son grand-père. Et on suit le côté très collection, en fait, de ces interviews, de ces choses qui sont normalement des choses rares pour comprendre un petit peu un auteur et qui vont se perdre et devenir des petits objets de collection un petit peu perdus dans le fond et qu'on va complètement... ça va devenir un truc de niche que plus personne ne va connaître. Des dessins magnifiques, une histoire qui est vraiment très cool. Vraiment, moi, c'était une grande claque, un grand coup de cœur. Et ouais, j'ai adoré. Quand tu vois, quand vous voyez ces planches-là, on a... un Sean Connery chevelu avec une tête de démon dans les mains, c'est juste magique. Voilà. Savoir que le dessin est récompensé d'Eisner Awards et c'est entièrement normal. Je vois pas comment le dire de plus.
Mérité.
Ouais, mérité, c'est ça, le très beau. Voilà, donc ouais, une très très bonne BD, très belle. Si vous aimez les romans pulp, si vous aimez l'aventure, si vous aimez les histoires où il y a de la famille, parce que c'est des choses très très cool. Ça parle de bouquins. Je me suis fait la petite réflexion l'autre jour, c'est qu'ils ont remplacé en fait le grand-père par un livre, par une bibliothèque. L'histoire marche quand même. Donc c'est comme si on se plongeait dans un livre et qu'on va découvrir au fur et à mesure de nouvelles choses et ouvrir de nouvelles portes et de nouveaux mondes. Voilà, truc vraiment très très beau. Regardez cette planche, juste magnifique. Voilà, perfect. Je redonne les références, c'est Helen de Windhorn, c'est de Bilkis Avely, c'est de Tom King et de Mathieu Lopez, et c'est publié aux éditions Glénat. Et ça a été mon grand chouchou, sachant que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il existait un tirage de tête en noir et blanc qui est sublime. Les couleurs sont très très bien en noir et blanc, on profite encore plus du trait. Je le mettrai peut-être dans ma bibliothèque après Noël, si le papa Noël m'entend. Voilà. je sais plus si je vous en avais déjà parlé de celle-ci, non?
Mais non, du coup, non, c'est une découverte pour moi.
Pour moi aussi.
Bon, ok, je vous la fais passer et puis on pourra éventuellement en reparler après une petite pause musicale. Je vous envoie vers un monsieur qui s'appelle Samuel Kim. Il a une chaîne YouTube et il fait des crossovers musicaux assez improbables. Et ce soir, je vais vous faire découvrir le crossover, si ça veut bien faire ce que je lui demande, de... j'ai un petit grésillement. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà, ça grésille à peine. Bon, voilà. Le petit crossover. Il a fait un crossover entre Star Wars et une musique de Noël. Donc, c'est La Marche Impériale et Carol of the Bells. C'est, j'ai plus la version française, mais voilà. Je vous laisse avec ça. Sur le 101.5 de Radio G, on se retrouve tout de suite après. Radio G. 101.5 FM. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours Seb au micro. Vous êtes toujours dans la case de Seb. Vous venez d'entendre un mix improbable entre une musique de Noël et la marche impériale de Star Wars. Et on enchaîne avec une BD qui parle de Star Wars. C'est à toi, Bruno, du coup.
Oui, tout à fait. Donc moi, ça s'appelle Les Guerres de Lucas. Donc là, je pense que beaucoup vont dire ah oui, Les Guerres de Lucas. C'est pas très original, mais en 2023, quand le premier tome est sorti, moi, je me suis pris une énorme claque et c'était mon coup de cœur 2023. Et là, le deuxième sort en 2025 et c'est mon coup de cœur 2025. Et en plus, j'ai pris un risque calculé parce que figurez-vous que je l'ai lu hier.
Ouais.
Et j'étais persuadé que ça me plairait énormément. Alors bon, après, il y avait du bouche à oreille. Beaucoup disaient que, enfin, certains, j'avais entendu dire, disaient que le deuxième est encore mieux que le premier étant vraiment génial. Je l'ai lu hier et j'ai vraiment été je plus sois, c'est effectivement, je vais pas dire que c'est mieux que le premier, mais c'est vraiment excellent. Donc alors bien sûr, Les Guerres de Lucas, c'est quoi? C'est le biopic, le making of, on va dire en BD de la première trilogie Star Wars, car je spoil immédiatement, il y aura un tome 3. voilà.
Ah bon?
Donc qui parlera le premier parlait du premier Star Wars, bien sûr, un nouvel espoir si je ne m'abuse,
ouais.
Et puis donc là c'est l'Empire contre-attaque et puis il y aura le retour du Jedi. Donc dans le premier, les auteurs reprenait toute la saga Star Wars, Lucas qui avait eu un succès avec American Graffiti, qui se lance, il a ça en lui, c'est son bébé, c'est son grand œuvre, et d'ailleurs ça reste son grand œuvre, George Lucas, le Star Wars, donc il a tout en tête, il veut absolument faire ce film, ça s'est jamais fait auparavant, donc voilà. Le premier tome raconte comment, malgré tous les obstacles qu'on lui a mis, notamment les studios hollywoodiens, il a réussi à son pari et à accoucher de cette œuvre monumentale qui a vraiment révolutionné l'ASF en particulier et le cinéma d'aventure et d'action en général. Et puis dans le deuxième, c'est l'Empire contre-attaque. Alors l'Empire contre-attaque, on se dit tout va bien. Ça a été un succès phénoménal, deuxième plus grand succès de tous les temps au cinéma, après Autant n'emporte le vent, donc ça devrait se passer tranquille. Sauf que Lucas a promis à son épouse qu'il allait lâcher lever le pied un peu, qu'ils allaient avoir une vraie vie de famille, c'est pas lui qui va réaliser, d'ailleurs effectivement ce ne sera pas lui qui réalisera les autres films de la franchise. Il a l'idée de créer une franchise, voilà. Sauf que, en fait, le tournage de l'Empire contre-attaque, ça va être de galère en galère en galère. Je peux pas tout citer, puis je veux pas spoiler, mais c'est vraiment, il y a eu des problèmes infernaux au niveau des acteurs, pour des raisons diverses et variées. Mark Hamill qui se pète la figure.
C'est celui qui se pète la figure
en voiture avant. Donc, faut trouver une astuce pour expliquer pourquoi il a la tronche de travers. Il se blesse juste avant la scène sur les combats où il avait bossé pendant 8 semaines avec un maître d'escrime, les combats laser avec son père. Il y a des problèmes avec Carrie Fisher, Harrison Ford, ça commence à le gonfler aussi. Enfin bon, à la fin, sans trop révéler, ils en avaient tous ras-le-bol, ils avaient qu'une hâte, c'est que ça se termine. Donc les dépassements dans le calendrier, c'est tout de suite, ça se compte en millions de dollars dès qu'on a X jours de retard. Donc les problèmes d'argent, les problèmes techniques, il y a même je dirais pas qui, mais il y a un décès dans l'équipe pendant le tournage, donc qui les fout un peu en l'air, voilà. Donc on se dit, est-ce qu'ils vont y arriver? Bon, on le sait qu'ils vont y arriver, puisque l'Empire contre-attaque, voilà. Et puis c'est plein de petits détails qu'on soupçonnait pas sur la façon dont ça s'est fait. C'est les galères de tournage, même les conditions extrêmes. Hein. Ils ont tourné en Norvège là, les premières scènes qui se passent, l'attaque de la base rebelle.
Sur la plaie des glaces, ouais.
C'était des conditions un peu extrêmes. Enfin, tout est comme ça. Et malgré tout, voilà, il arrive à sortir le film. Et puis, bon, bah, c'est le succès phénoménal que l'on connaît. Donc là, évidemment, je spoil pas la fin en disant ça. Mais on est pris par une véritable intrigue. Il y a une vraie narration, il y a un vrai parti pris narratif. Ça se lit vraiment comme une fiction. Il y a du suspense, il y a de l'humour. À la fin, il y a de l'émotion. Moi, j'ai pas versé ma petite larme, mais j'avais quand même les yeux un peu mouillés parce que c'est vrai que c'est quand même émouvant à la fin et ça m'avait fait le même coup avec le premier. C'est une super histoire et c'est une histoire vraie quoi. Et la narration, le graphisme aussi dans le premier, ils avaient décidé au départ, ils avaient imaginé de faire un graphisme très chiadé en étant poli. Et puis en fait, ils sont aperçus que ça fonctionnait pas. D'abord, ça aurait pris trop de temps. Et puis qu'au niveau de la fluidité de la lecture, c'était pas bon. Mais vraiment, en plus tous les acteurs, tous les personnages, on va dire, les protagonistes sont vraiment ressemblants, quoi. On les reconnaît tout de suite. Il y a une maîtrise graphique qui est formidable et avec un dessin très épuré, ça se lit vraiment d'une traite. Alors que bon, c'est un petit pavé quand même.
Quand même, ouais.
Et moi, je conclurai en disant, vivement le tome 3, quoi.
Après, le tome 3, le tournage s'est très bien passé. Ça va faire deux pages.
On va découvrir des choses, je pense. voilà. Et puis, il faut saluer que c'est pas des auteurs connus, c'est pas un éditeur connu. Ça amène à un vent de fraîcheur aussi dans la BD. C'est vraiment le cadeau de Noël si vous avez dans votre famille, dans vos proches, des gens qui aiment Star Wars et qui connaissent pas la BD. C'est le carton assuré, quoi. C'est absolument génial.
J'ai eu l'occasion de rencontrer les auteurs à Cultissime en début d'année des gens qui sont toujours très modestes sur leur façon de travailler, des gens ultra adorables et c'est eux qu'on parle le mieux, mais c'est vraiment une même juste la création de cette BD est déjà une saga en soi. Donc n'hésitez pas. Les Guerres de Lucas épisode 2.
Je te laisse donner les références.
Ouais. De Renaud Roche et Laurent Hopman, c'est aux éditions Demann. Voilà. Un petit bijou, que vous soyez fan ou pas de Star Wars, si vous aimez les histoires sur le cinéma, c'est aussi un vrai cadeau parce que il y a plein de techniques, il y a plein d'inventivité en fait dans le travail de Lucas qu'on découvre à ce moment-là pour justement contrecarrer toutes les embûches qu'il a pu scoltiner sur la création des films.
Et des accidents aussi, des accidents qui créent des effets formidables et inattendus quoi. Voilà.
C'est juste génial. Voilà. À toi, Fabien.
Oui, avec plaisir.
Tu as pris un petit conte de Noël aussi, c'est ça?
Ouais, alors non, pas du tout.
Mince.
Mais non, mais c'est ça qui est bien, on peut tout faire à Noël. Il n'y a pas de limite.
C'est des cadeaux.
Non, je reviens même dans le passé, puisque je vais vous parler d'une œuvre quand même qui date de 97 au Japon. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez lointain. Je vais vous parler d'Old Boy. Alors pourquoi j'ai décidé d'en parler là? Parce que je ne le découvre que maintenant. C'est-à-dire que on me l'a offert et je suis plongé en plein dedans en ce moment et j'adore, clairement j'adore. Donc du coup je me suis dit ça peut être un super cadeau de Noël. Donc du coup Hot Boy, déjà c'est une réédition aux éditions Naban. Donc on est sur des tomes doubles qui sont sortis en 2020. Il y a que 4 tomes, donc terminés. On est sur 414 pages quand même pour 13 € seulement, donc ce qui est très raisonnable. Donc en 4 tomes on est un cadeau de Noël à 50 €. On peut avoir la totale, c'est plutôt sympa. Et on est, par contre, attention, on n'est pas sur un conte de Noël du tout, hein. Là, on va être sur un thriller assez noir, suspense drame, donc vraiment seinen, donc plutôt, je dirais, à partir de 16 ans quand même, là, parce qu'on est quand même sur une histoire un peu dure.
J'aime bien ton à-propos un peu dur.
Un peu dur, tout à fait. Et du coup, on a au dessin Minegishi Nobuaki, et au scénario, ils sont plutôt nombreux, puisqu'il y a 4 auteurs qui se partagent le scénario. On a Garon Tsuchiya, Caribou Marley, dont on avait déjà parlé dans l'émission, Marginal et Yuo Ijikata. Alors, je ne sais pas qui a fait plus ou moins, je sais juste que les 4 ont travaillé dessus.
Après, c'est dense et c'est très travaillé.
C'est très, très travaillé au niveau scénaristique et tout ça. Donc, à l'approche de Noël, on cherche souvent le cadeau parfait pour le lecteur passionné. Donc, si vous avez un ami, un proche, ou si vous êtes vous-même amateur de thriller psychologique intense, j'ai donc une recommandation en or, le fameux manga Old Boy. Donc, réédité donc en format double par l'édition Naban en 4 volumes. Beaucoup doivent connaître Old Boy grâce au film sud-coréen de Park Chang-wook de 2003, un chef-d'œuvre de violence stylisée et de vengeance glaçante qui a d'ailleurs inspiré une célèbre scène de combat dans le couloir. Mais attention, Le manga est la source originale, et si l'idée de base est la même, l'enlèvement et l'enfermement d'un homme pendant 10 ans, puis sa libération soudaine sans aucune explication, l'approche est radicalement différente. Dans le manga, nous suivons Shinichi Goto, un homme bien plus ordinaire que le héros du film, enlevé non pas pendant 15 mais 10 ans. Ce qui rend le manga si captivant, c'est sa nature de thriller, d'enquête pure. L'œuvre se concentre moins sur la violence physique et la fureur, bien qu'il en ait, et beaucoup plus sur le côté psychologique et le mystère. Goto est relâché dans la rue, avec de l'argent, sans aucune explication, et un seul objectif pour lui, découvrir qui l'a enfermé et pourquoi. Le manga Hellboy est un véritable puzzle narratif. C'est une quête cérébrale et paranoïaque où Goto doit reconstruire sa mémoire, décoder des indices subtils laissés par son ravisseur et faire face à des situations qui le poussent au bord de la folie. C'est l'héritage spirituel un peu du Comte de Monte Cristo, transposé dans le Tokyo moderne où la vengeance se mijote lentement avec une précision chirurgicale. Et tout ça dans une ambiance très sombre, tout le temps dans la nuit quasiment, dans les bas-fonds de la ville. Le dessin de Nobuaki Minegishi est d'une sobriété qui sert parfaitement le ton. Loin des planches spectaculaires, il installe une ambiance nocturne et dure, capturant l'expression de la détresse, de l'obsession et de la solitude de Goto. Le trait est réaliste, ancré dans le quotidien, rendant l'horreur des situations d'autant plus crédible et dérangeante. Pourquoi l'offrir pour Noël ? Ce manga en 4 tomes double est un excellent cadeau pour plusieurs raisons. Le prestige, c'est un manga culte qui a été récompensé notamment au Neismer, comme le titre d'avant dont tu nous as parlé, Seb.
Décidément, on fait que des trucs de qualité ce soir.
Ouais, dis donc, et du coup, ça m'a interpellé quand tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, c'est un titre qui a marqué le genre. C'est un classique qui mérite d'être dans toute bonne mangathèque. L'originalité, c'est l'occasion de découvrir une facette plus nuancée et psychologique de l'histoire que le film. C'est un parfait complément au chef-d'œuvre de Park Chan-wook et une œuvre qui se suffit largement à elle-même. L'intensité, la série est terminée et courte, garantissant un récit dense et sans temps mort qui tiendra son destinataire en haleine jusqu'à la révélation finale. Si vous voulez offrir un thriller intelligent, sombre et inoubliable pour Noël, ne cherchez pas plus loin. Le manga Hellboy est un voyage au cœur de l'obsession qui fera date dans l'esprit du lecteur.
Ben voilà, rien de plus à rajouter. Hein. C'est un manga qui a marqué parce qu'effectivement, on a eu un film qui a été très impactant, qui a beaucoup plu à énormément de gens. Alors si vous êtes sensible, évitez. Hein. Clairement, c'est pas fait pour vous. Parce que ça reste quand même très très violent et les retournements de situation sont assez compliqués à garder en tête. Un manga aussi dense que passionnant.
Ouais, exactement. Moi, j'ai pas encore fini parce que je le commence il y a pas longtemps, mais j'ai déjà dévoré les 2 premiers tomes malgré l'épaisseur parce que c'est très très dur de le lâcher. J'ai beaucoup de mal parce qu'une fois qu'on est pris dedans, ça se lit vite. En fait, on a envie de connaître la suite et de suivre ce qui va se passer. C'est vraiment un côté thriller noir comme ça que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de voir le film, donc du coup je découvre avec le manga, et après, du coup je vais en profiter pour me faire le film.
En sachant qu'il existe 2 versions du film, la version dont tu parlais tout à l'heure, et il y a une version américaine qui, désolé, est largement dispensable.
Ouais mais je comptais partir sur l'autre.
Très très bien. Ouais.
Donc voilà.
Je te laisse redonner les refs.
Ouais, donc c'est Hellboy, édité donc chez Naban. Premièrement, ça avait été édité chez Kabuto, qui n'existe plus.
Ok.
Et du coup, on a au dessin Minegishi Nobuaka et au scénario Caribou Marley, Garon Tsuchiya, Marginal et Yuo Ijikata.
Eh ben, perfect. Je vous propose qu'on refasse une petite pause musicale maintenant. J'ai dû croire un truc que j'ai trouvé très cool. Est-ce que vous avez vu le The Grinch ?
Oui,
avec Jim Carrey.
Bah oui.
Il y a une petite fille dans ce film qui s'appelle Taylor Momsen, qui des années plus tard a décidé de monter un groupe de rock qui s'appelle The Pretty Reckless, et elle vient de sortir un morceau qui s'appelle Where Are You Christmas, où elle reprend la chanson qu'elle chantait petite, et ce qui lui permet de faire un petit duo avec elle-même. Je vous laisse avec The Pretty Reckless, Where Are You Christmas.
My next guest, only 7 years old, starring with Jim Carrey in the new movie Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas, which opens this Friday, the 17th. Please welcome Taylor Momsen.
Where are you, Christmas? Why can't I find you? Why have you gone away? My world is changing, I'm rearranging the
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Et vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, toujours dans la case de Seb. C'est toujours une émission spéciale Noël où on parle de nos recommandations spéciales pour offrir des cadeaux de dernière minute, ou pas, simplement juste des bonnes lectures, mais voilà. Et pour une fois, là, après trois quarts d'heure d'émission quasiment, on va parler d'une vraie BD avec un vrai Père Noël dedans.
Ouais, alors je sais pas si... Oui, si, c'est le vrai Père Noël.
C'est le vrai,
ouais,
Père Noël, c'est le vrai, hein, Père Noël. Pas... bon, c'est un peu particulier. Moi, ça fait, c'est un truc complètement what the fuck dont je suis tombé, mais complètement dingue. C'est Sanda, c'est de Paru Itagaki, qui a fait Beastars, qui a fait Bota Bota, dont parlait Fabien l'autre fois. C'est publié chez Kiun dans la collection Seinen. Et l'histoire, je vous la pitch très simplement. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui tente d'échapper à une de ses camarades de classe qui veut le trucider, simplement parce qu'elle est persuadée qu'il est la réincarnation du Père Noël. Déjà, voilà, je vous casse ça. Il y a des raisons, bien entendu, au fait qu'elle veuille tenter de le trucider pour prouver qu'il est la réincarnation du Père Noël. Et elle a juste raison. C'est vraiment la réincarnation du Père Noël. Donc, c'est juste assez délirant de voir un petit garçon qui doit faire 1m60 à dos cassé, qui passe sur un grand bonhomme barbu ultra musclé en slip de 2m10, dans un collège à japonais. Ça fait très bizarre. Le dessin, il est juste génial, il est très très sombre avec des yeux qui sont très travaillés. Il y a beaucoup de d'ancrage, il y a des choses qui sont très poussées. Il y a des dessins qui sont, enfin moi je tombais juste dingue de ce manga. Je vois pas comment dire de plus. Vous voyez là, si vous voulez le Père Noël, il est comme ça là. Sur, si vous regardez là, on a une version ultra musclée du Père Noël, ce qui est juste absolument dingo. Donc voilà. C'est un manga de super-héros, selon moi, puisque le Père Noël répond à tous les codes des super-héros. Il a un costume, il a des super-pouvoirs qui se déclenchent selon certaines conditions. Donc il y a, voilà, c'est un manga de super-héros qui critique la jeunesse. Il y a un texte, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'école et la façon, l'univers, dans cet univers dans lequel on ne croit plus au Père Noël, il y a des raisons à ça. Ça va ramener un peu de magie aussi. Et du coup, moi je trouve ça hyper cool.
J'ai pas eu l'occasion encore de tester celui-ci.
T'as pas lu encore ?
Non.
Il faut. Sachant qu'il y a une série animée qui est sortie il y a peu de temps, qui a aussi fait un parti pris graphique assez particulier. Ils sont pas partis... c'est pas... On va pas dire que c'est pas fidèle au manga, mais ils ont pris un parti pris assez... dans l'animation qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude, donc ça peut vous repousser, mais c'est faut le tenter le coup, c'est vraiment très bien. La première transformation du jeune garçon en Sanda est juste épique, donc ça vaut le coup d'y aller. Ouais, vraiment un petit bijou. Je crois qu'ils sont rendus au tome 5, là j'en ai que 3 pour l'instant, mais c'est une petite pépite. Il y a plein de choses, il y a plein de secrets, il y a du mystère, il y a de l'aventure. Les personnages sont attachants, même si au départ le héros, on se dit c'est quoi ce pleutre, c'est quoi ce, c'est une lavette, hein, clairement au départ. Il comprend pas pourquoi on veut le tuer. Bon, en même temps, il a raison, on comprend pas. Et à partir du moment où il commence à comprendre comment il fonctionne et comment sa transformation de Père Noël commence à fonctionner, là on part dans le n'importe quoi, parce que ses pouvoirs sont du n'importe quoi, mais c'est très drôle, ça fonctionne bien et ils sont complètement logiques vis-à-vis de ce qu'un Père Noël peut avoir comme rôle. C'est juste voilà, un petit bijou pour moi, et un grand cri d'amour à Papa Noël. voilà, donc Sanda de Paru Itagaki, publié aux éditions Kiun. Voilà, c'est l'autrice de Beastars, c'est l'autrice de Bota Bota. Ouais.
Alors il y a combien de tomes ?
Je crois qu'il y en a 5 actuellement. Je vais chercher, comme ça je vais pouvoir te donner l'info précise, mais c'est je crois qu'il y en a, ils doivent être à 5 actuellement, et combien il y en a au Japon, je vais te dire tout de suite.
On est à 16 terminés au Japon et 5 en cours en France.
Ouais.
D'accord.
Donc c'est fini déjà.
Donc 16, ah oui. Ça va, okay. C'est pas une série une série qui est excessivement grande. Je pense que mis bout à bout, ça fait moins que les 4 tomes de Oldboy.
Oh non, quand même, t'exagères.
À peine.
Oh, ça doit se valoir.
Non, mais voilà, c'est. Après, cette autrice-là, allez-y, c'est juste son dessin, il est juste fabuleux. On l'évoquait déjà plusieurs fois, le dessin de Beastars est très différent. C'est juste génial. Voilà, voilà. J'avais autre chose, mais je vous propose juste de refaire une petite pause musicale et puis après on entamera la dernière partie. Là, je vais piquer un petit morceau des Gardiens de la Galaxie. C'est de l'épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Et il y a un moment, il y a quelqu'un qui se pose la question de qu'est-ce que c'est que Noël. Il fait des suppositions. Si vous parlez anglais, allez-y, vous allez voir, c'est assez drôle. Donc on part avec I Don't Know What Christmas Is, issu de la bande-son des Gardiens de la Galaxie.
Out on the third planet closest to the sun, there's a special celebration, and it sounds quite fun. A jolly old fellow brings toys to everyone on a holiday they call Christmas.
That's perfect. Good. Beezer. Good job.
Now, I'm not gonna lie, it makes no sense to me, but here's what I've discovered about this Christmas mystery.
I'm super busy. Is this a long song?
One, two, three, four!
Santa is a furry freak with epic superpowers. He flies to every human home in under 14 hours. He's a master burglar.
No.
A pro at picking locks.
No.
If you don't leave milk and cookies out, he will put dung in your socks.
That is not part of the lore at all.
If you act nicely through the night and don't jump on your bed, Santa comes with sugar plums and hurls them at your head. But if you're on his naughty list, he shoots missiles at your toes. He might just roast your chestnuts with his powerful flamethrower.
No! He doesn't have a flamethrower!
Rain, 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 rain.
It's kinda cool.
Dear, 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 I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. He's compelled his creepy elves to do his every wish. Once sought to be a dentist, now he's sleeping with the fish. Mrs. Claus, she works the pole, plans her man's demise.
No!
Soon the elves will all rise up and stab out Santa's eyes.
Earthling!
Ho, 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 ho. Earthlings are so weird.
That's true.
I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. Ho, 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 ho. Earthlings are so weird. I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. What the heck's a turtle dove? And who lit up that deer? I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. It's somewhere.
Ah, nice.
Nice.
Oh, no. You just got these instruments?
Thank you, nowhere.
www.radio-g.fr.
Allez, on attaque la dernière partie de la Case de Seb, émission spéciale Noël. J'avais prévu de mettre un pull de Noël et je l'ai oublié chez moi. Il est gentiment plié sur ma table. Donc imaginez-moi avec un pull de Noël. J'ai déjà la barbe, j'ai pas les cheveux du Père Noël, mais il paraît que je bosse avec la lutte. Après, on m'a jamais vu dans la même pièce que le Père Noël non plus. Donc, mystère. Je vais partir sur une BD. Alors du coup, Bruno, si tu les as lus, tu pourras m'en parler. Tu l'as acheté il y a pas longtemps.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui. Et tu l'as lu du coup depuis ?
Non, j'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai lu les premiers tomes.
Ouais. Ok. On va partir sur une BD qui est publiée chez Ankama, qui est de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Ça s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. C'est le tome. Alors c'est le troisième tome, mais c'est la deuxième histoire.
Oui.
Et ça s'appelle Le cauchemar de Loch Lyttan, partie 1/2. Est-ce que tu peux nous faire le pitch un peu du truc ou pas sur le par rapport au 1?
Le concept de cette série, c'est de, effectivement, ça porte bien son nom, hein, c'est de se mettre dans la tête de Sherlock Holmes, parce qu'on est toujours fasciné par ce personnage qui a une intelligence hors du commun, qui a une capacité de déduction, d'observation, d'abstraction formidable, quoi, qui fait que c'est un grand détective. En fait, les auteurs se sont amusés, effectivement, à essayer de reconstituer les chevaux de son raisonnement, en fait, lorsqu'il mène une enquête. Sauf que ils ont fait ça graphiquement, c'est-à-dire que ça donne lieu à des sortes de fresques, en fait. On peut voir tout le parcours intellectuel et aussi le parcours spatial, en fait, de Sherlock Holmes quand il mène son enquête, et avec des plans de Londres, des intérieurs de maisons victoriennes. Enfin, bon, on est complètement dans un hommage très appuyé à tous les codes de Sherlock Holmes, mais avec ce parti pris graphique. Là, vous attendez pas à du 3 strips, 2 images par strip. Là, c'est pas du tout ça. Chaque page est assez bluffante, parce que on sait pas à quoi s'attendre, sur quoi on va tomber. Donc, avec des cases en arrondi, parfois c'est carrément une fresque, comme je disais tout à l'heure, totale. Et donc, ça se lit pas. Il n'y a pas une fluidité de lecture comme une BD classique. Là, il faut vraiment rentrer dedans. Mais ça se fait très bien non plus. C'est pas du tout illisible, au contraire. Mais ça demande. Faut quand même lire ça quand on est. Faut rester un peu focus. Mais du coup, c'est passionnant. Et puis alors, quand on aime l'atmosphère de Sherlock Holmes et
les enquêtes, ouais.
Et les enquêtes, moi j'adore tout ce qui est Angleterre victorienne. Forcément, c'est une réussite totale.
Alors, ce qui est bien, c'est que tu disais que la complexité de lecture, mais on suit littéralement le fil rouge de la pensée de Sherlock Holmes, puisque le fil est matérialisé pour nous faire suivre le cheminement dans les cases. Et des fois, on nous dit, attends, là, cet indice-là, on va le mettre de côté, et on le met littéralement de côté, et on le reprend plus tard. Ce qui est cool, c'est que, par exemple, quand on regarde une des premières double pages de ce nouvel album, les bulles ont littéralement la forme du train dans lequel Holmes et Watson sont en train de discuter. Il y a beaucoup de petites curiosités graphiques ou de petits jeux qui sont disséminés dedans. Attention, c'est pas une BD jeu, mais si on est suffisamment attentif à cette BD, on peut aussi devancer parfois un petit peu la pensée de Sherlock Holmes. Ce qui est hyper cool à faire. Et ultra satisfaisant. Ouais. Là, par exemple, au tout début, Holmes reçoit, c'est un petit peu le moteur de cet album, il reçoit un courrier d'appel à l'aide, un courrier qui l'intrigue beaucoup, et il décide d'aller en Écosse enquêter sur un possible crime. Qu'il emmène Watson qui dit, mais t'es mignon, mais on avait peut-être autre chose à faire. Il fait, ça passe en prio. Et du coup, on a le courrier qui nous est lu, qui nous est montré. Et quand on lit, on comprend pas tout. Mais il y a une petite astuce que je vous laisserai découvrir. Sachant que les auteurs ne nous laissent pas dans le flou. Quelques pages après, ou juste la page après, on nous explique l'astuce. Mais si on l'advance un petit peu, cette astuce, il y a une satisfaction qui est juste géniale. C'est juste trop trop bien à lire. Effectivement, là, c'est ce que je disais, donc vous avez toujours le fil rouge. La répartition des cases est toujours hyper pratique, hyper intéressante, et travailler, penser pour justement vous permettre d'avoir une lecture dans l'ordre de pensée de Holmes. Il y a plein de petits moments où on se retrouve directement dans sa tête, où on le voit ranger des choses dans des petits tiroirs. Là, on a le petit train de sa pensée, par exemple sur la grande double page, et on suit effectivement tout ce qu'il range. Alors, c'est très bavard sur ces moments-là, mais c'est normal parce que c'est toutes les pensées qui viennent qui lui traversent la tête, qui sont organisées d'une manière ou d'une autre. Et c'est juste un petit bijou. Alors, je vais peut-être pas aller trop loin parce que du coup, je voudrais pas vous gâcher les choses, mais là, par exemple, on a un chemin et il rentre dans un village écossais, et on a en petite vignette chacun des personnages qu'il rencontre sur ce chemin. Et juste en dessous, une autre case où il explique ce qu'il pense de chacune des personnes. Et du coup, ça donne un côté très ludique, très intéressant sur ces ouvrages-là. Donc ça, c'est, si vous avez des gens qui sont fans de Sherlock Holmes, c'est un ouvrage, mais il faut absolument le offrir, parce que ça marchera juste trop bien. Sachant que c'est des albums doubles à chaque fois, pour les enquêtes, que l'album déjà graphiquement c'est juste donc un agencement très particulier, mais c'est ultra joli. Là, on est sur plein de tonalités vertes. Il y a le côté très Écosse, vert gris parce qu'il y a le côté très brumeux aussi. Les autres étaient plus sur des tons marron jaune un petit peu de mémoire.
Oui, j'ai plus en
bleu. Bleu, oui, il y en a un bleu, oui, effectivement.
Oui, plutôt bleu. Enfin voilà, ça dépend des lieux.
Et ça marche juste trop bien. On est happé complètement par cette enquête et on a envie de la résoudre avec tout le monde.
On plonge vraiment dans la page, dans les planches. On est complètement immergé. C'est ce qui crée une expérience aussi de lecture qui est hors du commun par rapport à ce qu'on peut connaître en BD. Et c'est là aussi où ils ont fait très fort parce qu'ils ont inventé ils ont décliné une nouvelle forme de narration BD. Ils n'étaient pas forcément les premiers à faire des choses comme ça, mais c'est complètement cohérent avec le thème de Sherlock Holmes, les enquêtes policières, et c'est vraiment génial d'avoir réussi à concrétiser ça. Et puis on peut dire deux mots sur, parce qu'il y a une charte graphique sur la couverture qui est absolument magnifique sur chaque album, une couverture avec une fenêtre en fait, la couverture est découpée au format de la tête de Sherlock Holmes et laisse voir la page de garde derrière, et donc c'est un beau livre objet aussi. C'est quand même à Noël, c'est sympa d'offrir de beaux objets, et la BD a cet avantage là que au-delà du bouquin et de l'œuvre, on a un bel objet, et il y a des BD prodigieuses et celle-ci elle en fait partie.
Ouais. C'est vrai que l'ouverture qui est créée avec le profil de la tête de Sherlock Holmes qui manque dans la couverture, qui laisse voir justement la quatrième, ça nous permet à notre regard de plonger directement à l'intérieur de la tête de Holmes, puisqu'on est vraiment happé par ça, et ce qui est juste... moi je trouve ça... C'est pour ça aussi, la première fois que je l'ai lu, j'ai fait « Oh, c'est original, c'est trop bien !» je pense que l'imprimeur doit se déchirer les cheveux à chaque fois qu'on lui propose ce genre de choses-là.
Oui, c'est sûr. Mais gros succès, hein. Forcément, ça a énormément marché. Et puis, il suffisait de regarder les files d'attente de dédicaces. Je m'en rappelle à Angoulême il y a quelques années. La dernière fois que j'y suis allé, je crois, sur le premier tome, oui, il y avait du monde sur l'action. Et effectivement, ça a été un succès immédiat.
Et ben voilà, petite pépite, petit bijou à découvrir, chers auditeurs, dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan, publié aux éditions Ankama. C'est le tome 1 du deuxième cycle, Le cauchemar du Loch Lytton. Il y aura deux tomes. Donc voilà, c'est pareil, ça prend pas trop de place dans la bibliothèque, bien. Mais vous pouvez vous allez y revenir, je pense, parce que des fois on passe sur un truc et on fait quoi ? J'avais pas vu ça. Et pourtant on nous l'avait bien souligné avant, mais on est passé à côté. Bref, juste trop trop bien. Et on finit avec un autre truc dont j'ai déjà parlé en début d'année, mais qui reste un de mes chouchous. Ça s'appelle Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath. C'est publié aussi aux éditions Ankama. Comment vous résumez ça ? Déjà, je vais éviter de mourir en toussant. Excusez-moi. On suit une toute petite ville tranquille où il se passe absolument rien jusqu'au jour où un crime horrible est commis. Un meurtre assez violent et sanguinolent et qui va perturber beaucoup toute la petite ville. Mais plus encore va perturber une petite oursonne. Alors, c'est une ville où il n'y a que des animaux anthropomorphes. Et cette petite oursonne, on sent qu'elle est plus perturbée que les autres. Pour une raison assez simple, c'est que c'est aussi une tueuse en série. Et qu'elle fait tout pour passer inaperçue. Et que ce crime risque de la mettre en lumière. Et elle va chercher à identifier la personne qui a créé ce crime-là pour pouvoir justement regagner sa tranquillité et continuer à être pépouse. C'est une BD qui est juste géniale. Je vous décris la couverture. On a une trouée à travers les branches d'arbres qui laissent transparaître une petite clairière. Et on a notre petite oursonne en tenue campagnarde, hein, chemise à carreaux et jean, qui a une pelle à la main et qui traîne un baluchon qui laisse une trace sanglante derrière elle. Et là, vous avez tout le contraste de la BD. On a un dessin qui est tout, qui est mignon, et qui parle de serial killer avec une violence assez forte. Le dessin est légèrement tremblotant. Il y a un côté fluide. On est sur des. Moi, je l'ai décrit la première fois. C'est le vent dans les saules rencontre Dexter. Et c'est complètement ça à l'intérieur. C'est juste la violence quand elle est présente, elle est très violente. Donc pas pour les enfants, hein, ça absolument pas. Et c'est juste trop trop bien. Tous les personnages sont là pour avec un côté un peu mignon. Et en fait non, hein. Je pense qu'il y a pas grand monde à sauver dans ce village. Mention spéciale aussi puisqu'on parle souvent de serial killer masculin. Là on est sur un personnage féminin. Déjà, c'est rare d'avoir une héroïne qui soit pas sexualisée, donc c'est une oursonne, donc on s'en fiche. Et en plus, c'est un serial killer féminin. Donc c'est des choses. Il y a plein de petites choses qui nous mettent en vrac dans cette BD. Et c'est juste trop bien. Le contraste est juste assez saisissant entre le dessin, le sujet, la façon de raconter l'histoire, parce que ça reste une façon qui est plutôt fluide et douce. Et
voilà. La mise en couleur aussi, c'est on est vraiment. Oui, ta comparaison avec le vent dans les saules, elle est bonne, hein, puisque effectivement on a ce côté un peu personnage animalier, un peu enfantin, en tout cas tout public, et ça transpare aussi dans la mise en couleur. Effectivement,
ouais, je
connais pas l'histoire, mais.
Puis j'essaye, comme on diffuse aussi sur YouTube, j'essaie de ne pas mettre des pages un petit peu trop trash, parce que là ça pourrait piquer un petit peu et. Mais il y a un contraste hyper fort entre le dessin qui est on a l'impression qu'il est un peu naïf alors qu'en fait il est très maîtrisé. Pardon. Non, il y a les pages qui sont passées si vous allez regarder sur YouTube, vous verrez des trucs pas beaux. Enfin si, c'est très beau mais c'est très violent. Ça a été un gros coup de cœur qui est passé globalement inaperçu. Il y a beaucoup de libraires qui ont essayé de le mettre en avant, mais je pense qu'il a pas eu assez de pub. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous en reparler ce soir. Si vous aimez quelqu'un qui aime bien les enquêtes, les crimes, les choses comme ça, je pense que ça peut vraiment lui plaire et ça peut le chambouler dans les codes qu'il a habituellement d'avoir un dessin un peu mignon comme ça et un traitement historique aussi un petit peu particulier. Voilà. Donc, Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath, c'est publié aux éditions Ankama et c'est juste une petite pépite. Voilà. Est-ce qu'on se refait un petit tour de table de tout ce qu'on a parlé très rapidement? Alors, il y avait des services de presse, il y avait des choses comme ça, mais comme c'était pas des choses récentes, hormis effectivement Sherlock Holmes qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, je m'en l'ai pas mentionné, mais c'est surtout des coups de cœur qu'on a fait. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc on avait Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath aux éditions Ankama. On avait Sanda de Paru Itagaki aux éditions Kiyun. On avait Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan publié aux éditions Ankama. On a Old Boy, scénario de Garon Tsuchiya et trois autres que j'ai pas retenu de tête. Et le dessin de Nobuaki Minegishi aux éditions Naban. On a Les guerres de Lucas. Tome 2 de Renaud Roche et Laurent Hopman, publié aux éditions De Man. Et on a commencé avec Hélène de Windhorn, de Bilkis Evely et Mathieu Lopez et Tom King, publié aux éditions Glénat. Voilà. Si avec ça, vous n'avez pas des cadeaux de Noël à mettre sous la hotte, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, hein. Ma phrase, elle voulait rien dire. Sous la hotte. Sous le sapin?
Ouais, sous le sapin.
Oui, voilà. Ouais, dans la hotte.
Dans la hotte, après, bon.
C'est pas grave. On va y arriver.
Sous la hotte. Allons, soyons fous.
On avait compris.
Voilà. C'est pas la fin, c'est pas l'émission de fin de cette saison, puisque c'est juste l'émission de Noël. Il y aura une émission entre Noël et le premier de l'an, où on vous parlera de je sais pas quoi encore, mais, t'avais une sélection rock, je crois que t'avais pas prévu.
En fait, je vous annonce tout de suite un peu de teasing que ce sera le bilan de la BD Rock 2025, de tout ce qui est sorti. Alors, ce sera, un panel assez large et puis on passera rapidement sur les albums, essayer de montrer un peu tout ce qui est sorti en BD Rock en 2025, voilà. Des choses dont j'ai déjà parlé ici, puis d'autres, voilà.
Trop cool. Je ferai peut-être un bilan de, je sais pas, je vais trouver un truc. Il y a plein de choses qui sont sorties. Là, je suis en train de lire Le Garçon et le Dragon, qui, sous des dehors tout choupi, visiblement n'est pas tout choupi, mais on aura l'occasion d'en parler. Voilà, ben vous souhaite un bon réveillon, n'abusez pas sur les bonnes choses, avec modération, n'abusez pas des gens non plus. Et puis on se retrouve dans 15 jours, et puis n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital,
c'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Yeah,